OK, on commence notre 38e leçon dans notre série sur la théologie systématique. Aujourd'hui, nous allons voir la part que prend Dieu le Père dans l'Alliance éternelle. On avait expliqué un petit peu la semaine dernière le concept de l'Alliance éternelle. C'est quelque chose d'assez simple en réalité. C'est une décision qui a été prise dans l'éternité concernant le salut des individus, donc une entente entre Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, dans lesquelles il déterminait ceux qui étaient pour être sauvés, le moyen par lequel c'était pour se faire, la part, donc il y a la part du Père, la part du Fils, la part du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on va voir la part que prend Dieu le Père dans cette alliance-là. Donc, il y a beaucoup de responsabilités. Des fois, on dirait, nommons les responsabilités du Père dans l'alliance. Des fois, on en nommerait peut-être deux, trois, mais il y en a beaucoup plus que ça. Alors, des fois, c'est une bonne chose de revenir un peu là-dessus puis de rafraîchir notre mémoire. La première chose à observer dans ces choses-là, c'est que Dieu le Père prend la première place et il prend l'initiative, comme on lit dans 2 Corinthiens 5, 19. « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes » leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. De la manière que le texte est écrit, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Donc, Dieu était en Christ, et par Christ, il réconciliait le... Alors, c'est Dieu qui prend l'initiative. Alors, on peut dire qu'il a planifié, proposé et réglé l'alliance en conseil. Dans trois choses... Dans ce qu'on pourrait appeler ses propositions, dans Jean 10, par exemple, verset 18, « Personne ne me l'ôte, » ici c'est Jésus-Christ qui parle, il parle de sa vie, « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Donc, dans ses propositions, dans ses prescriptions aussi, Jean 12, verset 49, encore le Seigneur qui parle, Jésus, dit « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Donc, si on prenait l'ensemble des évangiles, tout ce que Jésus a dit aux hommes, ça lui avait été prescrit par Dieu le Père. Dans ses ordonnances aussi, Jean 14, verset 31, c'est encore Jésus qui parle, il dit « Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levons-nous, partons d'ici. » Dans Ésaïe 49, versets 1 à 6, « Il, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs, l'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie, des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel. » Et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance, pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, non seulement Dieu il planifie, propose, il règle l'alliance, mais aussi il fixe les conditions et établit les bénéfices. Donc, il dit, il va arriver telle chose, mais il faut qu'il y ait telle condition pour qu'on puisse en retirer certains bénéfices. Donc, on va regarder ce que le Père a proposé, prescrit et ordonné au Fils. On voit qu'il y en a pas mal. Au fond, des fois, on dirait à brûle pour point, nomme-moi donc les choses, on s'apercevrait qu'on est peut-être plus ignorant qu'on pense. Ce que le Père a proposé, prescrit et ordonné au Fils. Premièrement, de se charger et de prendre soin des élus. Jean 6, verset 39, « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Des versets qui sont encore forts en termes d'élection, parce qu'il dit « La volonté de celui qui m'a envoyé, donc la volonté de Dieu le Père, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. » Donc, tous ceux que le Père a donné au Fils, sa volonté qu'il ne perde rien, mais que je le ressuscite au dernier jour. Jean 17, verset 12, c'est dans le cadre de la prière sacerdotale, le Seigneur Jésus dit « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le Fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. » Le seul qui était perdu dans ceux que le Père avait donné à Jésus à sa venue sur la terre, c'est Judas, parce qu'il était déjà écrit de lui que c'est ça qui arriverait. Hébreux 2, 13, « Et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Alors ici, c'est comme par anticipation, il dit « Me voici, moi et les enfants comme Dieu m'a donné. » C'est comme déjà, il anticipe quand tous ses enfants vont revenir avec lui. Lui, il parle comme si c'était déjà fait, parce qu'il est tellement sûr qu'il va réussir ces choses. Donc, de se charger et de prendre soin des élus, première chose. Deuxième chose, de pourvoir à leur rédemption. Isaïe 49, versets 5 et 6. « Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu de choses que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. » On l'avait lu tantôt. « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est Dieu le Père qui l'établit. Alors, c'est sûr que c'est solide. Jean 10, verset 16, encore dans le contexte, c'est Jésus qui parle. « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Alors, si dans le contexte, on comprend qu'il parle des brebis d'Israël, la nation juive, et il dit « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. » Donc, il parle des païens, des gentils qu'on appelle, donc nous. Et il dit qu'un jour, ils vont tous être un même troupeau, un seul troupeau, et lui sera un seul berger. Autre chose que le Père demande au Fils, c'est de prendre une nature humaine. Ceci était nécessaire afin qu'il puisse souffrir la malédiction de la loi, et pour qu'il puisse endurer la punition de sens et de privation. Ce que John Gill appelle « punishment of loss and punishment of sense ». Je vais vous expliquer un peu tout à l'heure ce qu'il veut dire par ça. Il fallait qu'il ait une âme et un corps. Donc, quand il dit « il fallait que Jésus prenne une âme et un corps », parce qu'il fallait qu'il souffle la malédiction de la loi à notre place. Et la malédiction de la loi, dans le fond, c'est de nous envoyer corps et âme dans l'enfer pour l'éternité. Donc, comme second Adam, il fallait qu'il soit capable de subir ce châtiment-là. Ce que John Gill veut dire par « punishment of loss », puis « punishment of sense », je vous explique un peu. « Punishment of loss », c'est que quand les êtres humains vont mourir, qui ne sont pas sauvés, ils vont voir Dieu, ils vont voir sa gloire, ils vont voir sa beauté, sa perfection, ses saintetés, tous ses attributs. La privation of loss, ça veut dire qu'ils vont être privés et ils vont avoir cette image-là comme continuellement dans l'esprit pour l'éternité et ils vont souffrir autant de ça que du feu comme tel. Et ça, c'est une notion, quand j'ai fait la première fois cette leçon-là, j'avais été un petit peu surpris de ça. Mais dans le fond, c'est vrai. Parce que quand un être humain voit Dieu, et qu'après, l'image lui reste dans l'esprit, dans l'enfer, ça va être sûrement le ver qui ronge. Et la privation of sense, là, c'est vraiment les sens comme tels. C'est quand être plongé vivant dans le lac de feu pour l'éternité, on n'a pas aucune idée, aucun d'entre nous qui peut même s'imaginer ce que ça peut être. Parce que c'est quelque chose qui nous dépasse énormément. Mais on sait quand même que il fallait que Jésus ait un corps, parce que nous, ça aurait dû être dans notre corps et dans notre âme que nous aurions dû subir ces choses-là. Et il fallait que Jésus les subisse dans son corps et dans son âme. Hébreux 10, versets 5 à 10, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Jésus parle de son Père et dit « Tu m'as formé un corps. » Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde, donc il établit la première alliance pour établir la deuxième. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Alors, vu qu'on va entreprendre éventuellement une étude sur Hébreu, on ira en détail dans ces choses-là quand on arrivera là. Galates 4:4 aussi. « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » Il fallait qu'il soit né sous la loi. Matthieu 26:38, Jésus dit, « Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Alors, il y avait un corps et il y avait une âme. « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. » Quatrièmement, le Père avait demandé au Fils d'obéir parfaitement à la loi à la place des élus. Ça, je pense qu'on le répétait assez souvent. Jean 12, versets 49 et 50, « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer, et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme mon Père me les a dites. » Romains 5, 19, « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Alors, ce que le texte est en train de nous dire, c'est qu'à cause d'Adam, tout le monde a été rendu pécheur. Et à cause de Christ, un nombre d'hommes va être rendu juste. Alors, c'est vraiment l'idée qu'à cause de un, comme le texte dit, comme par la désobéissance d'un seul homme, on parle d'Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, encore on parle de Christ dans le contexte, beaucoup seront rendus justes. Matthieu 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Cinquième chose que le Père demandait au Fils, de souffrir la malédiction de la loi à la place de ses élus. Jean 18, verset 11, Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. « Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » Hébreux 2, verset 10, « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. » Hébreux 9, verset 15, « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance afin que, la mort étant intervenue pour l'arrachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. » Aussi, sixièmement, de servir d'offrande parfaite. Dans Hébreux 10, versets 5 à 10, « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est important de saisir ça. Ésaïe 53, versets 10 à 12. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Alors, dans le contexte, Ésaïe 53, c'est une prophétie qui parle de Jésus-Christ, du Jésus-Christ souffrant. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Autre chose que le Père lui demandait, qu'il fasse l'expiation des péchés des élus. Daniel 9, verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Voyez-vous, ça parle vraiment de amener la justice éternelle et expier l'iniquité. Autre chose, pour bâtir une justice pour ses élus. Ésaïe 45, versets 24 et 25. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Donc c'est la fameuse justice, la robe de justice de Christ qui a accompli la loi à la perfection à notre place. Cette mission-là lui avait été donnée parce que n'étant pas pécheur et n'ayant pas de nature pécheresse, il pouvait obéir à la loi durant toute sa vie, et c'est ça qui nous est imputé, donc mis sur notre compte, une importance primordiale à saisir pour le salut. Autre chose que le Père lui avait demandé de faire, c'était de paître les brebis destinées à la boucherie. Zacharie 11, versets 4 et verset 7. Ainsi parle l'Éternel, mon Dieu, paie les brebis destinées à la boucherie. Verset 7. Alors je me mis à paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus misérables du troupeau. Je pris deux houlettes. J'appelai l'une grâce et j'appelai l'autre union. Et je fis paître les brebis. Ésaïe 40, versets 10 et 11. Voici, le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. Il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. C'est vraiment des belles images, plein de tendresse, qui dit, il prendra les agneaux dans ses bras. Il les portera dans son sein. Il parle de Christ. C'est sûr que c'est des images, mais c'est des symboles, mais c'est... On comprend ce que ça veut dire. Ce que le Père, maintenant, a promis au Fils. Donc, il lui a fixé des conditions, il lui a donné une mission en différentes parties, mais il lui a aussi dit que quand ces choses-là seront accomplies, il va résulter des bénéfices à la fois pour moi, à la fois pour toi, en parlant de son Fils, et à la fois pour les bénéficiaires. Donc, pour que le Fils obtienne les bénéfices promis, il y avait une condition, l'accomplissement. Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alors, tout ce que le Père lui avait donné comme mission à accomplir sur la terre, quand il a dit, « Tout est accompli. » Tout ce qui avait été décidé, la mission que le Père avait confiée au Fils dans ses différentes parties, quand le Jésus a dit « Tout est accompli », c'est parce que tout était accompli. Les promesses du Père au Fils personnellement. Il lui a dit que pour l'œuvre qu'il lui confiait, il lui donnerait, autrement dit, ce qu'il avait besoin. Premièrement, les dons et les grâces nécessaires. Nous lisons dans Ésaïe 11, versets 1 et 2. « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Dans le contexte, ça parle de Jésus-Christ. Alors, il lui donne tout ce qu'il a besoin comme grâce pour qu'il puisse accomplir sa mission. Jean 33, verset 34. « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » Donc, les dons et les grâces nécessaires, aussi la force nécessaire, ce qui en demanda pas peu. Psaume 89, verset 24. « Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. » Il lui avait aussi promis l'aide et l'assistance nécessaires. Psaume 22, verset 19. « Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. » En passant, c'est un super de beau psaume à étudier, psaume 22, psaume 53, c'est-à-dire Ésaïe 53. C'est vraiment des bijoux à étudier, c'est d'une toute beauté. Ésaïe 50, verset 7. « Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru, c'est pourquoi je n'ai point été déshonoré, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. » Il y avait aussi promis le support nécessaire. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Il avait aussi promis la garde et la préservation nécessaires. Ésaïe 49, versets 2 et 8. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Ainsi, par l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secourrai. Et je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Donc, il lui assurait la protection et la garde et la préservation. Aussi l'encouragement nécessaire. Matthieu 3, verset 17. « Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jean 10, verset 17. « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. » Ésaïe 53, verset 11. « À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. » Aussi, il lui avait dit qu'il serait glorifié dans sa nature humaine. Premièrement, qu'il ne verrait pas la corruption. Psaume 16, verset 10. « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Pour ça qu'il est resté 3 jours, parce qu'il s'était prévu 3 jours et 3 nuits, mais le corps de Jésus n'a pas connu la corruption, parce que le Père lui avait promis. Aussi, il lui avait dit que pour être glorifié dans sa nature humaine, qu'il le ressusciterait le troisième jour. 1 Pierre 1, verset 21, « Qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » Il avait promis aussi qu'il monterait au ciel, donc c'est fait partie de sa glorification dans sa nature humaine. Acte 1, verset 9 à 11, « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui qui a été enlevé au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Il lui avait dit aussi qu'il recevrait des cadeaux des hommes. Matthieu 2, verset 11, « Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrèrent ensuite leur trésor. Ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. » Quand même curieux, hein? Quand le Père a promis les choses au Fils, il a connu ce qui était pire et le Père l'a honoré aussi par des choses assez extraordinaires. Par exemple, de sa naissance, l'étoile, les rois qui sont venus lui donner des présents. Donc, il a connu les choses des hommes qui étaient comme le tombeau qui lui était donné par un homme riche. Différentes affaires. Donc, il a reçu des choses bonnes des hommes, mais c'était quand même la volonté de Dieu. Qu'il serait aussi transfiguré devant les hommes. Ils n'ont pas nécessairement compris tout de suite, là. Mais ils ont quand même, le Seigneur, Dieu le Père, a quand même voulu que son Fils soit connu des hommes, même s'ils n'ont pas compris nécessairement tout de suite qu'est-ce que ça voulait dire. Matthieu 17, verset 2, « Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » Ça devait être particulier, j'avoue, là. Aussi qu'il serait reconnu souverain de façon absolue. Acte 2, verset 36, « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » Qu'il s'assoirait à la droite de Dieu, psaume 110, verset 1 de David, psaume, « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Après l'ascension, s'asseoir dans un office de souverain sacrificateur, ça veut dire que ton travail est terminé. Il fait asseoir à sa droite la place d'honneur et il lui dit, « Maintenant, assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Qu'un nom nouveau au-dessus de tout nom lui serait donné. Philippiens 2, verset 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que tout et tous lui seraient soumis. 1 Pierre 3, versets 21-22. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Tout lui a été soumis. Qu'il serait couronné et honoré. Apocalypse 5, versets 12 et 13. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et c'est toute la création là, qu'il reviendra en gloire, et ça pour nous c'est notre espérance. Matthieu 25, verset 31. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Qu'il exécuterait d'honorables offices. Si on vous poserait les questions, quels sont les trois offices de Christ?
Sacrificateur.
Les savez, les savez. J'ai honte de vous poser la question. OK. Qu'il exécuterait trois honorables offices. L'office de prophète. Donc, prophète, c'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu. qui peut dire des choses à l'avenir, mais aussi qui parle au nom d'eux. Ça a comme deux aspects, la prophétie. Donc, Luc 1, 76. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » Donc, l'office de prophète, l'office de sacrificateur, on en a parlé, on est en train de faire une leçon sur le tabernacle. Psaume 110, verset 4, « L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point, tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. » Et là, on pourrait beaucoup développer sur ce que ça veut dire, l'office de prophète, l'office de sacrificateur, mais ce n'est pas la leçon aujourd'hui. On va revenir là-dessus éventuellement. Et l'office de roi. Donc, les trois. Prophète, sacrificateur, roi. Donc, les trois offices de Christ. Apocalypse 17, verset 14. « Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les a appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. » Donc, il exécuterait d'honorables offices. Quatrièmement, qu'il verrait une postérité. Ésaïe 53, verset 10. « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » On est la postérité de Christ. Psaume 2, verset 8. « Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Maintenant, il y avait des promesses de rattacher à l'accomplissement de la mission que le Père avait donnée au Fils. Il avait dit au Fils, pour les élus, premièrement, qu'ils seraient délivrés de leur misère. Zacharie 9, verset 11, « Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. » Et Job 33, verset 4, « Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse, j'ai trouvé une rançon. » Donc, ils seraient délivrés de leur misère. Deuxièmement, qu'ils seraient justifiés manifestement. 1 Corinthiens 6, verset 11, « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Ézéchiel 36, verset 25, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés, et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Que leurs péchés seraient pardonnés. Acte 10, verset 43, « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Ce qui n'est pas la petite affaire. « Qu'il serait adopté, 2 Corinthiens 6, verset 18, « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Qu'il serait régénéré, Jérémie 32, verset 39 et 40. « Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. » Qu'ils auraient la connaissance de Dieu. Sixième chose, Jérémie 31, verset 34. « Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Qu'ils auraient, septièmement, la loi de Dieu dans leur cœur. Romains 7, versets 22 et 25, Paul dit, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Verset 25, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis, par l'entendement, esclave de la loi de Dieu, et je suis, par la chair, esclave de la loi du péché. » Jérémie 31, verset 33, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Huitièmement, qu'il les rendrait capables d'obéissance. Ézéchiel 36, verset 27. Alléluia, qui nous rendent capables d'obéissance. « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Il dit bien, « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et que vous pratiquiez. » C'est vraiment son œuvre. « Qu'il persévérerait dans la foi. » Neuvième bénéfice, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 et 24. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Quel beau verset! Écoutez, on parle de persévérance dans la foi. Ça. Que le Dieu de paix, je le répète, il est trop beau, vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et gardez bien la fin du verset. C'est lui qui le fera. Alors, un chrétien qui n'a pas de sanctification dans sa vie, là, et... Parce que Dieu dit qu'il va sanctifier ceux qui sauvent. Dixièmement, qu'ils auraient la vie éternelle et la gloire, qui n'est pas la moindre des choses non plus. Titre 1, verset 2. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les temps les plus anciens par le Dieu qui ne ment point. Quand Dieu promet quelque chose, il ne ment pas. Donc, il rend au bout ce qui a commencé. Jean 17, verset 24. Père, ici, c'est la prière sacerdotale, encore une fois, Christ demande des choses à son Père, et il le dit, « Tu m'exauces tout le temps. » Puis, il va regarder ce qu'il demande. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Ça a fait plusieurs choses. Hein? Des fois, c'est juste de se souvenir que toutes ces choses-là avaient été, c'était une décision prise en conseil, que Dieu le Père décidait ces choses-là pour le Fils. La prochaine leçon, ça va être qu'est-ce, le rôle du Fils et après ça, le rôle du Saint-Esprit dans l'Alliance éternelle. Bien important de comprendre ça. Quelles sont les applications, quelles leçons on peut tirer de ce qu'on vient de voir aujourd'hui? J'en ai tiré au moins deux, il y en a sûrement plus que ça, mais au moins deux. La première, je dirais, l'ancrage de notre salut est d'une solidité absolue et infaillible. C'est, on est ancré en Christ, on est en Christ, il est rendu au ciel, donc on est ancré en lui, on est déjà là. En quelque sorte. Alors, c'est ça, c'est d'une solidité à toute épreuve. Deuxièmement, les promesses rattachées à l'Alliance possèdent différentes caractéristiques dont nous aurions beaucoup intérêt à méditer. Les promesses rattachées à l'Alliance sont d'une richesse infinie, d'une profondeur infinie, d'une beauté infinie, d'une gloire et d'une majesté infini. Nous, on parle du salut, on parle du ciel, on parle de la vie éternelle, on parle de la vie dans la félicité avec Dieu. Mais pour nous, c'est encore assez... L'éternité ne suffira pas pour tout découvrir, la richesse, la profondeur et de toutes ces choses-là. Alors, c'est faut apprendre à méditer et ne pas s'arrêter à juste utiliser des mots qui, éventuellement, deviennent un petit peu des coquilles vides. Juste le mot « vie éternelle », ça devrait nous faire vibrer beaucoup. Là. Parce que ce que Dieu nous donne, c'est au-delà de ce que nous sommes capables d'imaginer dans toutes ces dimensions. Alors, louons et adorons Dieu le Père pour sa part dans l'Alliance éternelle. Amen. Amen.